du temps plein vraiment intense. Je soumets mon dossier, je passe au comité, puis ça. Puis ils me font, puis il y avait quelqu'un qui nous avisait, puis ils me disent, ah, oh, hey, by the way, l'argent que vous avez levé, il n'est pas encore dans votre compte de banque, hein? Je suis comme, qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, comme, il faut pas, faut que l'argent que vous avez levé soit signé, mais il ne faut pas encore que vous l'ayez dans votre compte de banque. Ça peut être encore chez les avocats ou chez les investisseurs, mais c'est vraiment important que l'argent soit... Fait que là, l'aviseur, je le regarde, tu sais, qui m'avisait depuis genre 4-5 mois, tu sais, depuis le début. Puis je dis comme, t'étais-tu au courant? Il me dit, ah, oh, ouais, j'ai oublié de te le dire.
Wow! Wow! Bienvenue au Podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le Podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produit technologique innovante, communément appelé SaaS, plateforme web, application web ou mobile, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons trucs, astuces, histoires à succès ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le Podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. DEV, le chiffre 2, CEO.com, aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leur idée d'application logicielle afin d'en faire un succès d'envergure. Fauve Doucet, cofondatrice et présidente du Partage Club. Je ne sais pas si on dit du ou de Partage Club. Tu pourras me corriger, Fauve, à ce moment-là. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. Comment vas-tu?
Je vais super bien, et toi? Puis on dit du Partage Club.
Du Partage Club, fantastique. Merci, n'hésite pas à me corriger. Tu connais beaucoup mieux ton entreprise que moi, mais même si on entend beaucoup parler médiatiquement parlant dans les derniers trimestres, d'abord, j'aimerais ça, Fauve, que tu puisses expliquer à l'audience qu'est-ce que Partage Club?
Le Partage Club, on est une entreprise qui démocratise le partage de ressources, puis on a développé une application de partage d'objets de la vie courante pour que c'est parti en fait du fait qu'on voulait partager entre voisins. Donc, partager tentes de camping, outils de jardinage, paddleboard, plein d'objets en fait qu'on a à la maison qui sont sévèrement sous-utilisés. Et maintenant, on offre notre solution aussi à des villes qui l'offrent à leurs citoyens, des institutions d'enseignement comme des garderies, des universités. On a des promoteurs immobiliers qui l'offrent à leurs résidents et aussi des entreprises qui créent des clubs de partage entre employés au bureau.
Vraiment intéressant et j'étais super content qu'on puisse t'accueillir aujourd'hui sur le podcast pour plusieurs raisons, mais entre autres par le fait que la startup, elle est quand même jeune, mais vous êtes vraiment en pleine effervescence. La mission, elle est incroyable et moi, je te vois bouger à une vitesse incroyable versus le nombre de temps que la startup elle a été créée. Et il y a un avenir incroyable, je pense, en avant pour la startup que tu as fondée. La mission est intéressante, je me répète. Fait que je dis, bon, écoute, ça serait le fun d'avoir Fauve sur le podcast pour nous expliquer un petit peu son background, comment qu'elle est partie, cette entreprise-là, où est-ce qu'elle en est, puis peut-être te lancer des perches aussi à travers le temps pour avoir un update de comment ça va vous autres, comment vous en allez. Je pense que ça peut inspirer beaucoup de gens là, sur la communauté là, de Pivot. Donc, j'aimerais ça, Fauve, qu'on recule vraiment en arrière. T'es plus quelqu'un, je pense, qui est d'un background qui a un côté marketing, commercialisation. Parle-nous un petit peu de son recul quelques années avant la fondation là, de l'entreprise. C'est quoi ton background et qu'est-ce qui t'a amené à partir là, la startup?
Moi, dans le fond, je suis quelqu'un qui a fait ma carrière en communication marketing dans des agences de pub. Donc, j'ai travaillé chez des Sidi, des Cossette, puis j'étais vraiment en spécialité média. Le média en publicité, c'est comment rejoindre les gens. Donc, tout ce qui est programmatique, achat sur les médias sociaux, la télévision, la radio. En fait, je pensais que je connaissais la tech parce qu'on faisait du Google Analytics, puis parce que j'étais capable de faire des petits scripts, puis j'utilisais des algorithmes puis de l'intelligence artificielle. Donc, je pensais comme connaître c'était quoi la technologie. Puis éventuellement, ben dans le fond, j'ai vraiment voulu en fait utiliser ce super pouvoir-là qui est de pouvoir changer les comportements des gens à grande échelle. Parce que quand je travaillais, mettons, pour une compagnie de chaussures, ben, j'étais capable de prédire d'ici 4 mois, on allait vendre combien de chaussures selon le budget qu'on allait mettre dans nos campagnes. Puis à un moment donné, tu sais, en termes de valeur, j'étais comme, je peux faire bouger les gens à acheter plus de choses, mais je peux faire bouger les gens aussi à aller se faire vacciner pour la COVID. Je peux faire bouger les gens aussi peut-être à déconsommer, ce qui est comme un peu paradoxal. C'est les gens disent, oh my God, une repentie du marketing qui veut maintenant faire en sorte que les gens achètent moins et empruntent.
C'est bon.
Mais c'est pas en lien avec mes enfants. Tu sais, je trouvais ça fou le nombre de jouets qui rentraient chez nous. Puis j'étais comme ça coûte cher, c'est pas bon pour l'environnement. Puis en même temps, il y avait une tension que je voulais tellement acheter tout à mes enfants. Je voulais qu'ils puissent avoir accès à tous les équipements de sport, accès à tous les jouets pour se développer, mais je voulais pas surconsommer. Fait que je me suis intéressée à l'économie collaborative. Fait qu'en fait, moi, c'était pas je veux faire de la tech, c'était plus comme il y avait une problématique, puis finalement, la technologie était une solution. Fait que j'ai dit à mon chum, je disais, ça te prendrait une app. Mon chum était comme, il était en marketing numérique. C'était assez compliqué, là, bâtir une app. J'étais comme, ben, trouver du monde qui savent bâtir des apps, puis comme, on va le citer, on va le faire. Voilà.
Et en quelle année tu as dit go, on le fait, puis que je lâche ma job? Je pense que ça n'a pas été instantanément. Tu as parti l'entreprise en ayant un travail à temps plein, je pense. Puis graduellement, tu as dit je me lance à temps plein.
Ben, les premiers petits germes, là, c'était vraiment, je te dirais, en 2021, 2021, je pense, fait que j'avais ma grosse job en pub. Puis, je voulais faire une espèce de box, tu sais, des subscription box de jouets, puis qu'on puisse se partager. Puis, j'avais fait un plan d'affaires, mais mes chiffres marchaient pas. Puis là, ben, j'avais juste une grosse job, puis c'était comme, j'ai pas le temps de réfléchir à ça. Puis, à un moment donné, j'ai fait un arrêt médical. Donc, j'ai dû me arrêter. Puis là, j'ai une de mes amies qui faisait un cours sur la décroissance soutenable à l'université. Puis moi, j'étais pas une vert foncé, là. J'étais pas une fille plus sensibilisée qu'une autre en environnement. Mais je me suis intéressée à ça. Il y a des petits fils qui sont touchés. Puis c'est vraiment en avril 2022 que là, je me suis incorporée. Puis là, ben, en fait, j'ai lâché ma job en hiver 2022. Fait que j'ai fait une étude de marché. Première étape, ça a été mon étude de marché. Ça s'est avéré positif. J'ai rencontré 60 Québécois de différents milieux, puis je leur ai présenté mon idée, puis c'était positif. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un MVP. Tu veux-tu que je lance dans le prototype? Tu veux-tu qu'on parle de ça, là? C'est bon?
Allons-y, allons-y, oui.
Parce que première personne, j'ai rencontré quelqu'un en capital de risque beaucoup trop tôt. Là, j'avais pas d'app, pas d'équipe, puis elle m'a dit, prends-toi le Lean Methodology, Lean Method, Lean, sais-tu?
Lean Startup. Le
Lean
lead,
Startup.
j'imagine. Oui,
Lean Startup
exactement.
de Eric Ries. Fait que j'écoutais ça audiobook pendant que genre je raclais mon terrain puis tout ça. Puis là, MVP, comment tu peux, tu sais, ça peut être une pancarte, ça peut être, tu sais, un prototype, là, c'est genre la chose qui te coûte le moins d'argent, qui te permet de valider si ton concept fonctionne. Parce que l'étude de marché, tu sais, je connais l'équipe de potlucks qui font ça, des sondages en ligne, puis c'est comme de ce que les gens disent, puis que les gens vont faire, il y a déjà un gap. Fait que là, fais le terrain. Puis moi, j'ai fait des groupes Facebook. J'ai invité des maires dans mon quartier. Prendre un verre de vin à Lilo dans ma cuisine. J'ai dit, les filles, pendant 3 mois, on n'achète rien, on met nos bébelles sur un groupe Facebook, puis on essaie de s'emprunter des choses. Puis c'est monté à comme plusieurs centaines de gens dans mon quartier. J'ai des maires de d'autres villes qui voulaient faire des prototypes. À l'époque, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est juste des groupes Facebook. C'est à ce moment-là, je retournais au travail, puis j'étais comme, il y a vraiment comme une petite fleur qui est en train d'arriver. Puis si je retourne dans ma grosse job, je vais me faire bouffer. Puis, j'aurais pas le temps de mettre toute cette énergie-là. Donc, j'ai pris la décision. J'ai regardé mon compte de banque. J'étais comme, j'ai 6 mois devant moi. J'ai dit, je vais tout donner. Je vais pas travailler comme une
Wow.
débile. Puis, campagne de socio-finance. Fait que c'est en mai 2022. J'étais dit, printemps-hiver que j'ai lâché ma job.
Et là, c'est fou. Puis je reviens à ce que je disais au début, là. Ça fait pas 12 ans que vous existez. Mai 2022, vous avez rapidement mis quelque chose de fonctionnel au marché. T'es pas une personne qui vient de la tech. Souvent, ce qu'on voit, là, les gens qui sont pas tech, qui se lancent en start-up, ils lancent rien avant 2, 3 ans. Et là, vous êtes déjà rendu loin, là. On pourrait y arriver étape par étape, mais c'est ça qui m'impressionne. Je savais pas ce bout-là de l'histoire, que c'était si jeune que ça, puis que tu as dit « let's go, on le fait à ce moment-là ». Fait qu'on arrive printemps 2022, tu as tes groupes Facebook, tu vois qu'il y a une certaine traction, là, tu sais, okay, comment qu'on amène ça dans un modèle d'affaires qui peut peut-être générer des sous, qui peut créer de la continuité puis du mouvement à travers tout ça.
Ouais.
J'arrête ma job, je me lance, je fais une campagne de socio-financement. As-tu réussi à lever quand même un montant intéressant pour allonger un 6 mois à 12 mois ou comment ça s'est passé la campagne?
Ben justement, fait que là, on se replace, on est comme en hiver 2022, puis là, on fait des groupes Facebook, là, j'ai 6 mois devant moi, puis là, j'ai rapidement été chercher des aviseurs, en fait, des gens qui m'ont entouré puis avec qui je parlais peut-être une fois par mois, puis à un moment donné, il y en a un qui m'a dit « Pourquoi tu fais pas une campagne de socio-financement? » Il dit « Je le vois, salut, bonjour, c'est du bonbon. » PR, il dit, puis tu vas non seulement te faire connaître, tu vas ramasser de l'argent, puis tu vas pouvoir avoir des premières ventes. Là, c'est de la pré-vente, là, c'est pas des dons, ça, ce financement, c'est genre, je crois en ton projet, je veux ton projet, je l'achète en pré-vente. Donc, on a fait une campagne de sous-financement à l'été 2022, puis là, on a amassé 85 000 $. Donc, ça a comme mis un peu d'argent dans le compte de banque. Fait que ça m'a donné un autre 6 mois, parce que j'avais pas un gros burn rate à l'époque. Puis là, je me suis dit que avec ces 85 000-là, ce que j'ai promis à ma communauté, c'était de dire, on va vous livrer une app avant Noël, en 2022. Puis tu sais, il y a bien des gens qui étaient comme, oh mon Dieu, mais là, quand tu vas dire ça, ce financement, tout le monde va vouloir te prendre ton idée, une appli comme ça, qu'on peut la bâtir en 2 jours. Puis là, j'avais un aviseur qui est Sylvain Carr, qui est connu dans le monde de la tech quand même, il a fait Real Venture, il est impliqué dans Ange Québec, il est parti à un fonds d'investissement en impact. Puis là, j'étais comme, Sylvain, est-ce que tu penses que je vais me faire piquer mon idée? Il était comme, oh mon Dieu. Il dit, de l'idée à l'exécution, il dit, de un, c'est pas vrai qu'en 2 jours, tu bâtis une app. Là. Il dit, tu vas le voir, tu vas le faire, puis comme tu as besoin d'apprendre, t'es comme, il y a plein, tu sais, c'est pas vrai. Il dit, par contre, si tu dis à ta communauté que tu livres en décembre, tu livres en décembre. Parce que ta communauté, c'est la chose la plus précieuse, c'est ceux qui ont cru en toi, faut que tu les chuchotes. Fait que ça, par exemple, faut pas que tu merdes. Si tu penses être capable de livrer, faut que tu livres. Fait que j'ai engagé des pigistes, j'ai engagé quelqu'un temps partiel, j'ai bâti, c'est une grosse question que j'avais, est-ce que je outsource ou j'ai mon équipe puis j'ai les gens à l'interne. Puis j'ai pris la décision d'engager à l'interne parce qu'on m'a dit, il y a des crédits d'impôt vraiment importants à aller chercher. Donc, fais-la à l'interne. Puis aussi, tu vas être en mode agile, avoir tes employés, c'est comme tu vas apprendre sur le terrain, tu sais, fait que c'est vraiment une bonne chose. Mais il y a aussi des super bonnes agences. J'ai travaillé, j'ai fait soumissionner. Parce que quand c'est pas ton core, tu sais que c'est un produit que tu veux développer, te faire guider puis tu connais pas ça, c'est quand même une paire de manches. Fait que je pense que le côté de te faire accompagner d'une agence, ça peut être vraiment génial quand tu pars from scratch. Mais nous autres, c'était vraiment core à ce qu'on faisait. Fait qu'on a pris la décision d'aller à l'interne. Puis, fait que on a livré une application qui tenait avec des Band-Aid en décembre.
Et je te lève mon chapeau parce qu'en si peu de temps, avec un budget quand même restreint que tu viens de mentionner, c'est tout un tour de force pour arriver à quelque chose qui est accepté par un store, Apple ou Google Play. Là, la partie, est-ce que c'est fonctionnel et est-ce qu'elle est parfaite? C'est sûr que la réponse, inévitablement, ça peut pas être parfait puis ça peut pas être complètement fonctionnel. Fait que je comprends que c'est un prototype, c'est un MVP. C'est normal que ça tienne des band-aids à ce moment-là, mais tu as réussi quand même à donner un petit quelque chose à la communauté pour Noël, si je comprends bien.
Oui, on avait 750 personnes qui avaient préacheté leur abonnement. Donc, on les a invités. Puis, tu sais, une des forces, je pense, qu'on a eues, c'était de justement communiquer. T'sais, la communication, c'est notre force. Fait qu'on a dit, c'est une version alpha, est vraiment pas parfaite. On va apprendre avec vous autres. On a créé un groupe Facebook qui s'appelle les co-créateurs. Puis on demandait justement à la communauté de donner du feedback. Puis comme on leur donnait, on leur posait des questions, qu'est-ce que vous aimeriez? Fait qu'on était beaucoup en co-création avec eux. Puis ça a été justement une façon de surcommuniquer et pas parfaite. C'était écrit alpha. À un moment donné, on a été bêta. Puis tu sais, on disait comme Android est comme pas top encore. On est vraiment en train de s'améliorer. Puis quand on a eu une application plus solide, là, on a dit comme on lance officiellement. Puis ça, c'était quelque chose aussi de mes aviseurs. Tu sais, j'ai dit, oh mon Dieu, mais là, on sait quand qu'on lance, l'app est-tu prête, l'app est-tu pas prête. Puis t'es comme, t'as besoin d'avoir tes 1000 premiers users, parce que là, tout va péter. Puis c'est là que tu vas apprendre, puis la machine va commencer à runner. Tu sais, tu peux pas juste faire des tests automatisés ou juste toi qui l'essayes, tu sais, puis quand tu rentres à ton premier 10 000, puis ton premier million, puis comme c'est là que tu apprends. Fait que plus vite tu es en marché, mieux c'est.
Et là, ça nous amène à ce moment-là au printemps 2023, qui il y a un an de ça, là. C'est hier, là.
Oui, décembre-automne 2022, quand on lance l'app, ben, on n'a plus beaucoup de cash. On n'a pas commencé à commercialiser, tu sais, on a juste... Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu des anges investisseurs qui nous ont contactés suite à notre campagne de sous-financement. Puis ils sont vraiment tombés du ciel. Petite joke. Mais, fait que j'ai organisé un brunch parce que c'est ma manière de faire les choses. Je voulais qu'ils se rencontrent, puis voir s'ils avaient le goût de travailler ensemble, puis comme de nous faire confiance. Donc, on a comme levé une pre-seed là, ce qui m'a permis de bâtir une équipe un peu plus solide, puis qu'on a lancé en juin 2023 officiellement.
Et là, ces investisseurs-là, c'est eux qui t'ont contacté puis ils ont dit « on a un réseau qu'on veut venir t'aider » ou c'est Ange Québec qui a embarqué dans la note ou c'est toutes des gens qui ne se connaissaient pas qui sont arrivés en même temps que tu as réuni? Je suis curieux d'en savoir un peu plus sur ce bout-là.
C'est des gens qui ne se connaissaient pas qui m'ont contacté comme ça. Wow. Fait que j'en ai eu comme 8 qui m'ont contacté. Il y en a 5 ou 6 qui, à ce moment-là, se sont joints à l'aventure. Plus tard, dans le fond, Ange Québec, il y avait quelqu'un qui faisait partie de Ange Québec, m'a présenté au réseau d'Ange Québec. Donc, j'ai pitché avec Ange Québec, je pense, en février 2023. Super belle expérience de pitcher devant un groupe d'anges. Ils me sont revenus avec une offre, mais qui m'allait pas d'un point de vue négociation. Mais c'est une super belle équipe. Puis, tu sais, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui réfléchissent à aller pitcher Ange Québec, qu'il y ait un deal ou qu'il n'y ait pas de deal, c'est super formateur. Parce qu'il aide à structurer des rondes, puis tout ça. Donc,
C'est une belle école d'apprentissage, honnêtement. J'avais fait partie d'une cohorte quand ils avaient ouvert un programme de formation. Je pense qu'ils l'ont fermé depuis. Mais ça avait été vraiment une belle école de formation. À l'époque... là, ils ont changé de direction, Ange Québec. Dans le passé, ça avait été dans une mauvaise direction et souvent, le running gag, c'était Démon Québec et non Ange Québec, là, malheureusement. Mais c'était un peu le message qui circulait, mais je pense qu'ils ont remis au centre de l'équation vraiment l'entrepreneur de la start-up et non juste l'investisseur. Fait que je pense qu'ils s'en vont dans la bonne direction ou que du moins le train est dans la bonne route. Comme tu dis, ça peut être un parcours extrêmement formateur au bout de la ligne et des contacts aussi qui arrivent à travers tout ça qui peuvent servir dans la vie d'entrepreneur d'aujourd'hui ou dans une autre vie d'entrepreneur plus tard, là, directement. Là.
Donc, si je peux t'ajouter une petite anecdote, même quand j'ai pitché Ange Québec, il y a un ange qui me challengeait pendant mon pitch. Fait qu'après, je suis allée au cocktail, on a jasé. Puis c'était quelqu'un qui a fait beaucoup de produits en tech. Puis finalement, on l'a pris comme coach. Je le trouvais bon. Wow. Fait que des fois, il y a des belles relations qui peuvent naître de ça.
Puis il y a des bonnes questions souvent aussi, des bons challenges qui sont là. Les gens, à la base, ce qui est le fun, c'est qu'ils ne sont pas nécessairement là pour l'argent. C'est souvent des gens qui ont réussi, qui ont un bon coussin financier, qui veulent aider. Des fois, il y en a qui ont des visions très spécifiques, puis ils vont accrocher sur une seule chose pour qui n'est peut-être pas nécessairement pertinent, mais bref, ça amène quand même son lot de challenges positifs, puis son lot d'expériences et de cheveux gris qui peuvent être ultra pertinents dans le cas d'un décollage d'une startup. Ouais. Et là, tu as réussi avec ces 8 personnes-là qui t'ont approché, j'imagine qu'il y a quelques-uns de ceux-là qui ont fini par investir, ça t'a donné encore un coussin d'air, d'oxygène pour un 6-9 mois environ devant toi, j'imagine, à cette époque-là.
Oui, ben tu sais, c'est drôle parce que les gens me disent tout le temps, t'as combien de mois devant toi? Puis moi, je dis toujours, ça dépend du scénario. Genre, tu sais, j'ai tout le temps, je sais pas toi comment tu fais ton cash flow, mais j'ai le scénario hyper pessimiste de comme, j'ai plus d'argent qui rentre, j'ai pas de subvention, j'ai pas de vente, j'ai comme, il y a une pandémie, on crash, comme, combien qu'on est capable de faire survivre la gamme dans un bunker, tu sais. Fait que ça, c'est mon survival mode. Après, j'ai mon réaliste de comme, ben, je pense, tu sais, ça, c'est réaliste en termes de subvention, ça, c'est réaliste en termes de vente. Il veut savoir plus d'investissement, je sais pas. Fait que j'ai comme mon réaliste. Puis après, j'ai comme mon optimiste. C'est comme plus mes prévisions financières quand je présente à des investisseurs de comme où est-ce qu'on veut aller. Puis tu sais, comme côté ambitieux. Fait que, mais mon survival de comme, il n'y a plus rien qui rentre. Ça a tout le temps été 6-8 mois. Après, ça dépend, tu sais, parce qu'à un moment donné, il faut que tu risques puis tu investisses pour que ça décolle. Mais là, tu diminues d'un ou deux mois. Fait que des fois, j'arrive avec mon équipe, je suis comme, OK, on veut-tu engager quelqu'un, mais comme, faut faire les chiffres plus vite. Fait que, à quel point que... Tu sais, fait que c'est toute une... C'est de la jonglerie, là.
C'est pas évident parce que des fois, ce qu'on pense qui peut nous accélérer à avancer vers le succès qui est plus pérenne peut finalement faire l'inverse, nous faire frapper un mur plus rapidement puis tomber dans l'abysse. Donc, c'est... C'est un continuel mode-là de « OK, est-ce qu'on y va à pleine vapeur, mais si ça frappe, ça va frapper fort. » Ou on continue tel quel, puis on manque peut-être la fenêtre de décollage. Et la vérité se cache souvent entre les deux, c'est ça. Et quand on va d'un côté, on ne sait jamais si l'autre barre, c'était bon. C'est ça le problème.
Non, puis en plus, c'est parce que c'est plus tough de pivoter, tu sais. C'est comme, tu sais, à un moment donné, t'as à pivoter, il faut que tu écoutes, mais quand tu as un mois pour pivoter, il faut que tu pivotes en titi, là, je veux dire, fait que... Faut que tu donnes un petit peu d'air, puis tu veux pas être stressé quand t'es stressé, t'es paralysé, fait que t'arrives, tu sais. Mais tu sais, j'ai des amis entrepreneurs que eux autres, ils ont comme 12 mois de cash flow, puis ils ont un business genre super steady, puis je suis comme, faut t'investir, faut du scale, je suis comme genre, t'es bien trop sécure, mais tu sais, chaque entrepreneur apprend aussi à se connaître de comment ils sont bien, puis...
Et ce qui est spécial pour avoir interviewé, là, ça fait un an et demi qu'on fait le podcast, fait que je dois être rendu à peut-être 30-40 personnes, mettons, à succès ou même des gens d'échec. C'est fou, hein, parce que ceux qui ont bootstrappé leur business, qui n'ont jamais levé de capital externe pour aller à pleine vitesse, disent que s'ils recommenceraient, ils iraient lever du capital puis ils risqueraient plus. Puis ceux qui ont levé du capital puis qui ont rentré des investisseurs puis qui ont essayé d'aller à pleine vapeur diraient « la prochaine fois, je le ferai bootstrap puis j'irai un peu moins vite ». Donc, on a, je passe tout le temps l'impression que l'autre côté de la clôture, le gazon est plus vert, puis que finalement, ceux qui ont bien réussi une traque, qui disent « ben oui, j'ai peut-être bien réussi, là, mais je pense que j'apprécierais plus d'être assis de l'autre côté de la chaise ou de l'autre côté de la clôture la prochaine fois ». Fait qu'il y a tout le temps cette dualité-là de « on le fait d'une manière, mais la prochaine fois, on aurait dû le faire de l'autre ». Fait que je trouve ça spécial d'entendre continuellement ce discours-là. Puis en même temps, il y a quelque chose de beau derrière tout ça parce que je pense qu'on est attiré un peu par l'inconnu ou par peut-être faire les choses d'une manière différente puis qu'on pense que à la base, on est des entrepreneurs, on est positif. Fait qu'on se dit que c'est peut-être plus positif de faire de l'autre manière que de la manière qu'on l'a vécu. Puis c'est ce qui fait souvent qu'on avance même si on mange un coup de pelle en plein visage. Le fait qu'on est positif, on se relève puis on passe à la prochaine étape.
Ouais.
Je reviens sur... T'as levé d'autres financements, version alpha, c'est fait, version bêta. Qu'est-ce qui se passe après, là, dans les, là, on se retrouve dans les 12 derniers mois à ce moment-là, là, d'aujourd'hui, là. Qu'est-ce qui s'est passé, là?
Donc, en 2023, ben là, on a commencé l'année, puis il fallait qu'on améliore l'app parce que à crash, c'était comme maintenant avec des band-aids. Fait que on engageait, en fait, super bonne personne. Personnellement, mais ça marchait pas du tout. Puis c'était mon premier gros investissement en tech en tant que personne. Donc, c'est tough parce que premier mois, ça avance pas. Deuxième mois, ça avance pas. Puis là, tu veux laisser une chance à la personne, mais d'un autre côté, tu sais, d'autres, on commercialisait pas. Fait que, tu sais, je voyais mon compte de banque faire ça. Puis tu sais, là, tu veux donner des conseils. Mais tu sais, si je connais pas cette expertise-là, fait que, tu sais, pour moi, c'était comme, c'était vraiment mon pilier. Puis j'ai cherché des aviseurs externes, puis je suis comme, c'est-tu normal? Mais semble, tu sais, comme, puis là, mes aviseurs disaient, ouais, tu sais, ça peut être long, on fait du refactoring, puis si, puis il y a de la dette technique, puis comme, OK. Mais là, après 3 mois, un gros salaire, puis tu sais, je peux pas, moi, j'ai un milestone à atteindre, tu sais, genre, puis prochain milestone, c'est commercialisation. Après, si j'ai besoin d'argent, les investisseurs vont pas réinvestir s'il y a pas tellement de stones, fait que, J'ai ma. Là, je suis plus à 6 mois, je suis rendue à 3 mois. Là, je suis comme. OK. J'étais allée en Colombie. J'avais un voyage de prévu. Puis j'ai dit au retour, je le laisse aller. Fait que j'ai dit, écoute, c'est difficile, on crève-cœur, mais comme. Fait que là, j'ai comme. Ça a été tough pour moi. Là, comme je laissais aller mon CTO, puis j'étais comme. Marche pas. Puis là, j'ai plus vraiment de dev. Ben, j'avais un autre dev plus intermédiaire, puis tout ça. Fait que, mais tu sais, ça avançait pas. Fait que là, non seulement ça avance pas, l'app crash, je suis comme. Mais là, j'ai réengagé des pigistes. Puis là, toutes les personnes en dev, je les faisais tout le temps faire des tests pendant un mois à pige avec tout ça. Voir si. Puis là, l'équipe était comme, ben, tu sais, Fauve, tu lui donnes une chance. Un mois, tu sais, t'as le temps de rien faire. J'étais comme, si en un mois, il n'a rien de temps de faire, c'est pas la bonne personne pour nous autres. Moi, j'ai pas besoin, je peux pas laisser 3 mois avant qu'il y ait un learning curve. Là, c'est comme, moi, c'est maintenant la learning curve, puis comme, sinon, ça marche pas. Fait que j'ai trouvé des bonnes personnes. Puis là, ben, c'est reparti. On a lancé l'app officiellement auprès des journalistes en juin. Elle était vraiment pas parfaite, mais on était comme, était assez parfaite pour qu'on lance. On a lancé. Puis là, on est passé, on avait 2000 membres. On est passé à comme 6000 membres en 2 semaines.
Wow!
Fait que ça, on capotait, là. C'était vraiment trippant. Puis là, il y a comme des entreprises qui nous ont contactés, des universités. Fait que là, on a commencé à vendre côté corporatif. On l'avait comme pas vu venir. Fait qu'on a fini l'année avec des objectifs très en bas de ce qu'on avait prévu en termes d'objectifs de vente. On m'a dit que chaque startup, c'est bien rare qu'ils font leur objectif de vente.
Effectivement.
Je me sentais tellement mal au niveau de mes investisseurs. J'étais comme, oh mon Dieu, pourquoi on a un CFO. J'étais comme, pourquoi on leur a dit ça? Pourquoi on leur a dit qu'on... Hey, j'ai failli faire un burn-out à un moment donné. J'étais comme, hey boy, faut que je fasse 100 000 $ ce mois-ci. On n'a pas fait encore une vente. Et je capotais. J'étais comme, oh mon Dieu, pourquoi qu'on a mis ça, tu sais? Fait que tout mettre des objectifs réalistes, c'est super important pour la santé mentale. Mais tu sais, il faut que tu sois ambitieux, mais en même temps réaliste, parce que sinon, le décalage entre les deux, fait que c'est ça.
Et je comprends tellement cette pression-là pour avoir, dans le passé, investi dans une start-up d'un ami. Je me souviens à la fin, quand il était obligé de fermer sa start-up, puis il y avait tellement... d'émotion de sa part, d'écouter, gang, j'ai pas livré, t'inquiète, on était à ta minute, là. Demain, tu nous dirais, tu repars une start-up, je pense que tout le monde ici réinvestirait, là, t'as tout fait pour essayer d'arriver, puis enlève-toi un peu de pression, là, puis, tu sais, je le ressens un petit peu dans ton témoignage aujourd'hui, que t'es une personne de cœur, t'es une personne qui veut livrer, tu t'es engagé à quelque chose, mais je suis convaincu que les investisseurs autour de la table font, écoute, on aurait fait probablement 10 fois moins que ce qu'elle a réussi à faire avec, tu sais, les ressources qu'elle avait. Fait que je pense que cette pression-là, souvent, en tant qu'entrepreneur ou en tant que personne de start-up, on se met envers les investisseurs, mais eux veulent surtout voir, on a-tu une bonne personne qui pousse puis qui a le couteau dans les dents puis qui fait le maximum au bout de la ligne. Oui, il y a des résultats livrés au bout de la ligne, mais il faut se laisser le temps puis réussir à décoller à travers tout ça, là. Fait que je pense que c'est pertinent le morceau que tu apportes à ce moment-là. J'aimerais revenir sur le lancement que tu as fait en juin, parce que je pense que vous êtes posé une certaine question à l'interne de dire, est-ce qu'on lance tout de suite ou on attend un peu? Il y avait une question de timing. Puis là, vous vous demandiez à ce moment-là, on y va ou on y va pas, là?
Ouais, on voulait que l'app soit rendue un petit peu plus loin. Mais là, ce qui arrive, c'est que nous, on est dans le partage d'objets, puis on sait que la saison du printemps, c'est le moment où est-ce que les gens ouvrent leur terrain, les jardins. Fait qu'il y a comme un timing important de ne pas arriver trop dans l'été, juste après l'hiver. Puis aussi, nous, on avait eu beaucoup de couverture médiatique à notre campagne de sous-financement. Fait que là, ça faisait comme 8 mois plus tard. Puis on sait que moi, pour avoir travaillé en pub, en médias, je sais qu'au printemps, il y a encore de l'écoute, mais quand tu tombes en été, les gens, tu sais, ils vont en camping, ils écoutent plus la télé, ils sont moins dans le média, fait qu'il y a moins de grosse audience. Fait que je savais qu'il y avait un threshold, il y avait un moment vraiment important qui était juin. Mais là, l'app n'était pas où est-ce que je voulais qu'elle soit. Puis là, je me souviens, là, on se posait la question à chaque jour, on était comme, on lance-tu? Oh non, on lance pas. On n'a pas deux fois une bonne chance de faire bonne impression. On était comme, non, mais on y va. Non, mais on y va pas. Puis là, j'avais un aviseur aussi. Puis tu sais, ce qu'on m'a dit, c'est, j'ai trop rencontré de startups qui ont regretté de genre pas avoir lancé. Ils n'ont juste jamais lancé. Ils n'ont jamais eu la chance de lancer, de se rendre à la commercialisation. Donc, fait que j'ai dit, OK, gang, un matin, je me suis levée, puis j'ai dit, on lance. Puis en fait, comme, oh ouais, je pense à la bonne décision. D'ailleurs, on peut parler d'intuition, là. Moi, il y a comme un. De plus en plus, je suis connectée à mon intuition quand je prends des décisions et non à ma tête seulement. Fait qu'on a lancé, puis ce qui est plate, par contre, c'est qu'on n'avait pas notre SSO. Fait que faire en sorte que quand quelqu'un arrive, il se connecte automatiquement avec son Facebook ou son compte Apple. Bien, tu sais, ça fait qu'on a perdu beaucoup de gens qui ne sont pas inscrits parce que c'est une étape de plus. Puis on le sentait qu'il faut que ça soit super simple.
Effectivement.
Fait qu'on aurait peut-être été à 10 000, 12 000 users à ce moment-là. Mais regarde, fait qu'on est quand même super contents.
Et fait que ça a été quand même un gain net positif. Parce que d'après moi, si vous auriez lancé plus tard, là, il y avait une question de il va peut-être manquer d'argent. Puis de l'autre manière, c'est que vous étiez, je pense, appuyé stratégiquement au niveau commercial que sur le PR, justement pour une question d'argent aussi. Fait que ce coup-là, ce stunt-là marketing est ultra important de le faire dans le bon timing. Puis chaque minute, chaque journée joue contre nous derrière tout ça. Mais il y a eu quand même un gain net positif, je pense, au bout de la ligne, là.
Mais oui, après, ça a comme plein d'autres. Et on a eu aussi de l'intérêt d'investisseurs, on a eu de l'intérêt de PR, on a eu des clients qui sont venus vers nous. Ça nous a amené de la crédibilité. Nous autres, ça nous a donné aussi du positivisme parce que, tu sais, souvent, on me le dit, pour comme 10 mauvaises nouvelles, t'as une bonne nouvelle. Quand tu commences, là, c'est vraiment tough. Puis, il faut juste jamais lâcher. Puis, c'est ceux qui lâchent pas. Puis, mes parents sont entrepreneurs. Ma mère, elle me disait tout le temps, si ça serait facile, tout le monde le ferait, fauve. Oublie-le pas. Si ça serait facile, tout le monde le ferait. Puis, tu sais, il y a des gens, des fois, qui voient les entrepreneurs comme, ah, oh, vous faites du cash, vous êtes capitaliste. Puis, tout ça. Puis, c'est comme, hey boy, hey, moi, si je voudrais avoir du cash, là, il y aurait tellement d'autres choses que je ferais. Dans le sens, il y a beaucoup de risques qui sont pris. Je trouve que c'est comme, c'est ça, c'est tough. Mais c'est comme des montagnes russes tellement tripantes. Tu le sais, tu le vis, là, c'est comme, t'as des noms, mais quand t'as un plus, il est comme, tellement hot, là.
On vit un petit peu à l'adrénaline de ces plus-là. Puis, il y a un grand entrepreneur qui m'avait dit, écoute, pour te rendre ce que tu veux te rendre, ça va te prendre 72 coups de pelle en plein visage. Fait qu'apprécie-le quand il y en a un qui arrive parce que tu te rends juste plus proche du 72e coup de pelle qui fait que là, ça va être une victoire qui va être à un niveau que tu trouves acceptable de ton côté. Ouais. Mais c'est un roller coaster d'émotions en continu. Particulièrement dans une startup, parce qu'en plus, il y a le côté financier qui joue tout le temps contre nous. Il y a le temps et les dollars qui s'échappent, des fois beaucoup trop rapidement du compte de banque, là.
J'en ai une bonne à te raconter, okay, mais qui n'est pas en tech, mais qui est en finance, OK? Il y a puis je nommerai pas le programme. Il y a un programme qui fait du matching, OK, d'investissement, de capital de risque. Fait que si t'as de l'argent que tu lèves en capital de risque, eux autres, ils peuvent matcher le même montant. Fait que moi, je les avais rencontrés, puis ils m'ont dit, ben, tu sais, on peut aller jusqu'à X, puis ça s'approche du million, okay, qu'on peut matcher. Fait que, mettons, si tu lèves un million, eux autres, ils vont matcher un million. C'est pas ce chiffre-là exact. Je veux pas donner trop de chiffres pour pas donner trop d'indices aux gens. Puis, fait que moi, j'ai dit, ben, parfait, m'aller lever mon million, mais c'était pas mon million. Fait que, tu sais, j'ai été chercher de l'argent, puis tout ça. Puis, ça a pris du temps, là, plusieurs mois. Puis là, à un moment donné, j'étais pas rendue exactement là, mais tu sais, j'avais cet argent-là. Puis là, ils me font un due diligence vraiment intense. Fait que, tu sais, ça m'a pris quasiment un mois et demi due diligence. J'étais quasiment à du temps plein, vraiment intense. Je soumets mon dossier. Je passe au comité, puis tout ça. Puis ils me font... Puis il y avait quelqu'un qui nous avisait. Puis ils me disent, ah, oh, hey, by the way, l'argent que vous avez levé, il n'est pas encore dans votre compte de banque, hein? Je suis comme, qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, comme, il faut pas, faut que l'argent que vous avez élevé soit signé, mais il faut pas encore que vous l'ayez dans votre compte de banque. Ça peut être encore chez les avocats ou chez les investisseurs, mais c'est vraiment important que l'argent soit... Fait que là, l'aviseur, je le regarde, c'est qu'il m'avisait depuis genre 4-5 mois, tu sais, depuis le début. Puis je dis comme, t'étais au courant? Il me dit, ah, oh, ouais, j'ai oublié de te le dire.
Wow! Un mois et demi de perte de temps, là, c'est à peu près
non,
ça.
Non, 6-7 mois, là, parce que tu as levé ton argent.
En plus, oui, effectivement. Puis tu as fait de la promesse pratiquement aux autres, si vous mettez un dollar, il va y avoir un autre dollar qui va rentrer.
Je disais que c'était pas obligé, mais j'étais comme, c'est ce programme-là, puis tu sais, comme on est quand même assez confiants, on leur parle depuis, ils veulent, ils nous croient, tu sais.
Mon Dieu!
Ça, c'est une méchante claque d'en face.
Mon Dieu! Et là, il faut que tu aies parlé aux investisseurs après de leur dire ça. Là, notre aviseur a oublié de nous dire ce petit détail-là. Wow!
C'est tellement by the book qu'il n'y a absolument rien à faire. Fait que j'en ai une autre, une demande de subvention qui a comme une dame qui est dans l'administratif qui a fermé notre dossier. C'était 350 000 piastres. Puis elle dit, hop, je l'ai fermé. J'ai dit, mais non, vous nous avez dit qu'on pouvait être éligible. On travaille, on a une firme. C'est comme, oh ouais, j'ai des ans, non. Ça va rouvrir dans un an. Je suis comme, vous comprenez pas que 350 000 pour moi, genre, ça peut être comme ma bonbonne d'oxygène, là?
C'est complètement fou, hein?
Ouais. Mais tu te dis, bon, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On avance.
Effectivement, je pense qu'il n'y a pas, malheureusement, pas d'autre choix que ça, mais je te comprends parce que j'ai vécu le même genre de problématique avec certaines subventions. Des fois, juste qu'il y ait un contrat de signé à l'avance, puis là, ils disent « Ah, mais tu as un contrat de signé à l'avance, oublie ça, on cancelle l'entièreté de la subvention. » Mais à ta minute, on a fait aucun travail avec la personne qu'on contractait de l'extérieur. Là, c'est juste des formalités. Non, fini. Merci, bonsoir, on passe à un autre numéro, vous nous reparlerez dans X années. Fait que je te comprends sur cet aspect-là, c'est extrêmement fâchant. On est quand même chanceux, par contre, il y a beaucoup de subventions ici au Québec en tech. Fait que, d'un côté, je pense qu'on, comparativement à d'autres pays, ils n'ont rien, mais reste quand même fâchant quand on est si proche de peut-être avoir un peu plus d'oxygène pour aller plus loin, puis d'avoir investi autant de temps, puis que finalement la porte se ferme et il n'y a pas de possibilité de la réouvrir, malheureusement. Et là, ça nous amène à ce moment-là. En septembre, l'automne passé, septembre 2023, octobre, je pense qu'il y a des mouvements de signatures avec des villes aussi que tu as réussi à aller chercher. Je ne sais pas si c'était avant cette date-là ou c'est dans cette période-là.
Oui, bien, l'année dernière, on a signé notre première ville à... Écoute, on n'avait juste pas de vente. Puis, tu sais, puis la monnaie, je pense que c'était au printemps. Excuse-moi, on fait back and forth, là, mais dans l'année, notre première ville, c'est Crabtree. Crabtree, je ne savais même pas c'était où. Là. Crabtree, c'est une petite ville de, je pense, 5000 habitants proche de Joliette. Okay, c'est tout petit. Ils signent avec tout. Puis moi, ça a été comme ma petite lueur verte au bout du tunnel. Ça a été notre première ville. C'est parce que les gens ne croyaient pas que les villes allaient investir dans le partage club. Puis là, je me souviens, je rencontre mon investisseur, tu sais, comme au mois de printemps, puis il me dit, puis comment ça va? Puis on a à peine commencé à commercialiser, puis il dit, puis t'as-tu fait des ventes? T'as-tu? Je suis comme, bon, on a signé Crabtree. Écoute, c'est un petit budget, tu sais. Il me dit, mais c'est malade! Puis d'ailleurs, je peux le dire, l'investisseur qui a fait son exit, c'est Metrio, Patrick Hévy. Ils ont vendu à la Nasdaq. Ils n'ont pas fait un IPO, là. Ils ont vendu à la Nasdaq. Ils sont bootstrappés. C'est une compagnie technologique qui mesure les indices ESG d'entreprise au niveau financier. Fait que, puis lui, il dit, moi, je me souviens, c'était genre MRC de Matawini, notre premier client, là. Il dit...
C'est hot!
Il dit, c'était rien, là, mais c'est ta première. Il dit, c'est malade. T'as signé ta première. Puis là, j'étais comme... Ah ouais, c'est hot. Il dit, c'est malade. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, je suis tellement contente d'avoir un... Tu sais, c'est moi, mes investisseurs, je dis que c'est comme mes Avengers, là. C'est mes pom-pom girls. Ils sont genre, puis j'ai choisi en termes de valeur. Puis c'est souvent des entrepreneurs qui l'ont eu tough, fait qu'ils savent par où qu'on passe. Fait que Crabtree a amené qu'il y a eu un journal, le Journal de Montréal. Ils ont fait un article sur Crabtree avec genre le maire avec le téléphone, super content. Prévost nous a appelés. Prévost, dans quelques semaines, il signait. Après, il y a eu Bel Oeil. Wow. Après, fait que, tu sais, puis là, on en a des nouvelles qui s'en viennent, mais il y a eu comme un effet papillon. Donc la première, c'était Crabtree.
Wow! C'est bon! Mais je pense que la première vente, c'est toujours significatif, c'est émotionnel. Mais tu as réussi à capitaliser là-dessus pour faire un effet de levier après au niveau marketing, Stone PR, qui est, je pense, une des nombreuses forces que tu as. Fait que bravo, ça, je pense que ça a donné un bon kickstart. Il y a d'autres villes qui s'en viennent qu'on ne peut pas nommer encore, qui sont confidentielles, qu'on parlait de peut-être de potentiel, mais on garde ça pour la suite des choses, pour un prochain stand marketing devant nous. Est-ce qu'il y a eu du mouvement? J'imagine, c'est sûr qu'il y a eu du mouvement qui s'est passé à l'automne passé. On arrive en septembre, en octobre. Y a-tu d'autres financements? As-tu d'autres, soit des pivots stratégiques, des enjeux au niveau technologique que tu as dû adresser?
Ben là, en ce moment, une belle opportunité qui arrive vers nous, c'est qu'on commence à se faire demander d'utiliser notre technologie en marque blanche. Donc, d'utiliser en fait notre technologie pour d'autres solutions de mutualisation. Donc, qui n'est pas nécessairement du bien d'objet de la vie courante. Donc, il semble avoir que le partage de ressources semble être une tendance quand même assez importante d'un point de vue économique, d'un point de vue environnemental. Donc, ça, c'est vraiment une super belle avenue en termes de revenus d'affaires qu'on explore actuellement, ce qui pourrait faire en sorte qu'on ferait évoluer notre technologie vers un SaaS personnalisé plus, tu sais, comme de pouvoir personnaliser des places de marché, de partage. Donc, ça, c'est super trippant. Parce que ça fait qu'on fait du développement aussi, mais de d'autres fonctionnalités, puis on co-crée selon les besoins du marché. Sinon, on s'est fait demander aussi beaucoup pour de l'autopartage, donc du partage de voiture, qui serait comme une prochaine étape de partage club. En tant qu'ils sont avec des assureurs, plusieurs de nos clients voudraient avoir cette extension-là. Donc, ça fait beaucoup de sens pour nous. Sinon, aussi, cette année, on a signé l'Université Laval, qui est quand même un très gros client, qui l'offre à tous leurs employés, leurs étudiants. On a eu Communauto, qui l'offre à leurs employés. On a Mon Technicien aussi, qui ont fait aussi un beau stunt PR avec, en mettant sur l'application une île pour leurs
Ils
employés.
sont
C'est
bons.
malade, sur le Partage Club. Fait que, il y a tout ça qui est en branle.
C'est le fun, ça bouge. Et au niveau technique, comment ça se passe dans les derniers mois, là, tu as réussi à aller vraiment chercher, je pense, des joueurs, des A-players. Est-ce que vous en êtes à la deuxième version du code? Comment ça se passe là, présentement, là?
Version du code, je vais te dire ça, on est rendu à quelle version? On est rendu à la version 1.9.9. Fait que, après, tout est une question de combien de versions, mais fait qu'à la version 9, si on veut. Puis, ben là, je te dirais que c'est trippant parce qu'on rentre dans de la ludification. C'est comme là, on est en train de faire notre onboarding. Fait que, tu sais, onboarding qui est comme un peu des tutoriels. Tu sais, c'est quand même plus loin, là. On commence à avoir plus de personnalisation aussi dans l'application. Là, on a aussi intégré l'impact financier. Fait que, on est capable de savoir en partageant combien d'argent j'ai économisé. On va avoir bientôt l'impact environnemental. Donc, ça commence à être vraiment, tu sais, l'application, c'est pas juste les fonctionnalités de base. Puis, moi, j'adore ça aussi, là, tout ce qui est de la priorisation. Des fonctionnalités pour avoir le plus d'impact. C'est vraiment un art, là, la stratégie de produit, là, selon les objectifs d'affaires, selon. Ouais.
Et je serais curieux, tu parlais tantôt, on est revenu sur le sujet quand vous avez fait votre lancement initial, une demi-gaffe qui a été net positif au bout de la ligne. Je serais curieux de savoir s'il y a d'autres gaffes que vous avez faites qu'on pourrait partager publiquement, qui peut peut-être éviter d'autres gens de tomber dans la même abysse ou d'inspirer des gens peut-être à essayer des choses aussi au final, là.
Oui, il y a plein de gaffes qu'on fait tout le temps. Je pense que. Puis, tu sais, des fois, je commence à connaître aussi. Tu sais, au début, je connaissais rien. Fait que, tu sais, on me disait des choses. Puis, comme je suis capable. Tu sais, des fois, même, il y avait un développeur, puis il parlait, puis il était mêlé dans ce qu'il me disait. Tu sais, je sais pas lire le code, là, mais j'étais comme, c'est sûr que le code doit être mêlé. Je suis pas capable de me dire. Je suis comme, il est pas capable de me dire de quoi de clair. Je dis, c'est sûr que le code, il doit pas être clair. Fait que, tu sais, je pense que tu le vois chez les gens, tu sais, des gens méthodiques puis tout ça se reflète clairement dans leur travail. Fait qu'il y a quand même des petits, tu sais, quelqu'un qui est pas technique, là, il y a des petits tests comme ça qui est capable de qu'on est capable de savoir. Mais je te dirais que moi, une chose qui est arrivée plus en marketing, mais qui est quand même au niveau technologique, puis c'est quelqu'un de l'équipe, puis j'en fais moi aussi, là, des choses, là, c'est juste parce que c'est... En tout cas, j'espère que je vais la préparer avant qu'elle écoute le podcast, ça va bien aller. En
Et
gros.
pour elle, on fait tous des gaffes. Si vous savez la quantité de gaffes qu'on entend d'un sas à l'autre. Si on ne fait pas de gaffes, c'est parce qu'on ne bouge pas assez vite. Voilà.
J'adore. C'est en gros, elle avait fait tout un flow marketing pour la fin de la période d'essai. T'sais, mettons, il vous reste 30 jours, il vous reste comme 15 jours, vous avez un code promo si vous le faites avant 24 heures, ta, ta, ta. Fait qu'il y avait comme peut-être une quinzaine de courriels, 3 mois avant le countdown de la fin de la période. Puis elle a comme mal fait son workflow, fait que ça a comme toute la base de données l'a comme reçu tout en même temps. Ouais.
Ouch!
Fait que ça, c'était pas cool. Mais
Suis
c'est
curieux
correct.
de savoir sur les métriques, puis là, ça dépend à quel point que vous aviez des tableaux de bord, mettons, poussés, puis de temps pour les suivre, mais quand cette gaffe-là est arrivée, est-ce que ça a un impact positif ou négatif sur le volume? Parce que au premier coup d'œil, tu sais, on se dit, mon Dieu, le monde se sont fait spammer, mais je serais pas surpris, peut-être que ça allait quand même ramener des gens dans l'app pour pousser des gens à revenir, même si au final, tu sais, un paquet de courriels dans un court laps de temps, c'est pas l'idéal, mais ça a peut-être donné un petit boost, là.
Ouais, ben c'est sûr, on a eu quelques désinscriptions, mais tout de suite, on a mis un erratum, puis tu sais, c'était pas si mal. Mais tu me fais penser à une autre histoire, par exemple. Nous, une autre gaffe, OK? Quand que dans l'application, quand tu trouves pas ce que tu recherches, Tu peux aussi dire « Hey, j'ai besoin de », puis ça l'envoie à des gens. Puis les gens répondent. Puis au début, on n'avait pas beaucoup de gens dans l'app. Fait que tu en recevais un par semaine, un, tu sais, ça va bien. Mais quand on a fait notre campagne PR, tu sais, il y a eu d'un coup comme plein de gens sont arrivés sur l'app, puis l'augmentation du nombre de besoins a été comme importante. Puis là, les gens peuvent recevoir comme 8 besoins par courriel par jour. Puis c'est surtout dans des places densifiées. Fait que là, il y a plein de gens qui sont mis à nous écrire puis à dire comme c'est trop. Puis là, nous autres, on n'avait pas encore notre façon de pouvoir se gérer ses préférences. Fait que le monde trouvait qu'on les spammait. Puis là, on était comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? Puis c'est le temps qu'on mette, on était comme, on arrête tous les besoins, mais le lab va comme plus marcher. Puis là, il fallait mettre, c'est comme une règle qui fait que t'en reçois pas plus que tant. Mais tu sais, sur le coup, le monde, genre, il capotait, là. Il se faisait spammer. Ben, on était comme, l'expérience utilisateur, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, faut que tu réagisses, tu fais une rencontre d'équipe, puis tu... Mais tu sais, tant que t'as pas eu, genre, 6 000 personnes, 10 000 personnes sur ton app, tu sais, faut que t'ailles ce qui se passe pour comme...
aller à la prochaine étape puis modifier la règle ou mettre du temps pour qu'il y ait des préférences par la suite. Mais le faire avant, c'est complètement inutile. C'est une perte de temps ou d'énergie, là.
Exact. Puis, excuse-moi, j'ai une autre anecdote à te raconter. Au début, on avait pensé au signalement. Tu sais, que les gens, mettons, ils mettent des objets qu'ils n'ont pas le droit de mettre ou quoi que ce soit. Puis, j'étais comme, on n'est pas rendu là, on dépriorise, tu sais. Puis là, il est arrivé, je pense, il y a un mois, quelqu'un a mis un vibrateur. Puis qu'il a publié un besoin, je veux un vibrateur pour, en tout cas, tu sais, quelque chose de vraiment inapproprié. Puis, tu sais, on les voit passer. Puis là, j'étais tellement contente. J'étais comme, oh mon Dieu. Il commence à avoir, genre, des choses pas correctes. J'ai dit, ça veut dire qu'il y a du monde, puis qu'il l'utilise. Là, j'étais comme, yes, on va faire le signalement. Non, mais tu sais, s'il se passe rien sur ton app, t'as pas ça, tu sais.
Ben effectivement, là, c'est un signe qu'il y a un volume, puis il vient avec le volume des petits singes, des fois, qui veulent en passer des vitres. c'est le signe que vous êtes rendu à une autre étape. Ça fait vraiment du sens. Je pense qu'il y a eu un apprentissage aussi quand vous avez publié sur les différents marchés, App Store, Play Store et compagnie. Parlons un petit peu de ce qui s'est passé quand que vous avez publié là, sur ces stores-là.
Oui, ben au début, on a publié avant même qu'on le donne aux gens de la campagne de ce sous-financement, juste comme pour tester nous autres. Puis, tu sais, on n'avait pas encore tout revu le texte, puis tout ça. Puis, il y a des gens qui ont trouvé l'app, puis qui se sont mis à mettre des mauvais commentaires sur les App Store, disant « il y a c'est bourré de fautes, ça crash tout le temps ». Puis, j'étais comme « vous êtes qui, vous ?» Comme, on vous a pas invité encore. Mais vu qu'on a fait une campagne de sous-financement, il y a du monde, le mot s'était parlé, donc ils nous trouvaient quand même. Puis là, tu sais, je suis comme, oh mon Dieu, il va falloir, parce qu'on a eu comme une ou, tu sais, on a eu des une étoile, deux étoiles. Puis là, j'étais comme, ah, ça laisse des traces. Mais bon, à un moment donné, c'était dans les débuts. On essaie de communiquer avec eux autres. Puis regarde, c'est des choses qui arrivent.
Puis c'est tellement crève-cœur parce que, tu sais, je vais parler d'une expérience qu'on avait développée il y a longtemps de ça, une application pour les backpackers, pour partager les endroits qui étaient en dehors des sentiers battus. Tu mets tellement d'efforts puis d'amour à développer une application, à l'amener à un certain niveau, et le monde sont zéro indulgents. Ils payent pas pour l'application. Dans notre cas, c'était ça, c'était gratuit. Et une petite affaire qui faisait pas leur sens, une étoile, zéro étoile, un mauvais commentaire, c'est « mon Dieu, c'est gratuit, on te le donne gratuit, peux-tu juste contribuer à la place au lieu de nuire au final? » Mais il y a vraiment ce mur de Chine-là que l'utilisateur ne voit pas réellement, l'humain en arrière de l'application, puis tout l'effort, puis le temps, puis l'amour qui est émis. Et c'est tellement facile pour l'utilisateur de mettre un mauvais commentaire sans comprendre l'impact. Quand on est l'entrepreneur, là, au bord, mon Dieu, que ça fait mal, surtout au début, parce qu'on veut plaire à tout le monde, on veut que ça soit parfait, on veut être certain qu'on est toujours 5 étoiles. Puis là, on voit ça de temps à autre entrer, puis un 5 étoiles compte pour 10 unités de bonheur, puis un étoile compte pour 1000 unités de négativisme. Fait que ça vient teinter un peu l'énergie qu'on a. Fait que je peux te comprendre sur ce morceau-là, surtout si vous étiez en version alpha, que les gens ne devraient pas l'utiliser ou le découvrir. Fait que je peux te comprendre sur... sur ce morceau-là, les stores sont vraiment, je cherche le bon terme en français, mais sont sans pitié souvent, malheureusement.
Ah, c'est... Ouais.
Il faut rattraper ça après, c'est ça le problème.
Là-bas.
Au niveau des bons coups, est-ce qu'il y a des bons coups que tu trouves que vous êtes démarqués, qui pourraient être intéressants de partager, que les gens pourraient s'inspirer, soit au niveau commercialisation, soit au niveau technique? Tu parlais entre autres de dire, OK, on fait un test en mode travailleur autonome avec les gens freelancer avant de les engager. Je trouve que c'est ultra pertinent comme conseil. Y a-tu d'autres cas comme ça que tu serais prête à partager là, pour peut-être aider les autres qui écoutent, qui sont dans le même parcours là?
Ben, tu sais, l'approche lean qu'on parlait au tout début, moi, je le fais même pour des projets internes. Tu sais, mettons, comme à un moment donné, on était toutes parties sur une bulle. Puis on était comme, ah, la nouvelle fonctionnalité, ça va être les listes d'inclusion. Fait que tu crées ton propre club à toi, juste tes parents, tes amis. Fait que là, les gens vont partager des trucs de plus grande valeur. Puis là, on va faire un programme de referral, que tu as le droit à 5 personnes, mais si tu veux acheter une 6e personne, il faut que tu payes. Fait que là, ça va faire que les gens vont payer. Puis là, c'était comme, ah, oh, c'était écœurant. Puis là, on était comme, ça va être malade, ça va être viral. Puis j'étais comme, OK. J'ai dit, on a une façon avant qu'on développe toute l'infrastructure, que chacun le teste de leur côté. Fait que j'ai dit, créez votre groupe privé, on peut le faire manuellement, qui invitez-vous genre 5 amis, puis on s'en reparle dans 2 semaines comment ça se passe. 2 semaines plus tard, on arrive au meeting. Il n'y avait personne qui l'avait fait. C'est comme, vous n'avez pas invité vos amis. Puis c'est comme, ouais, ben tu sais, je les connais déjà. Fait que tu sais, ce qui est plus cool dans l'app, c'est plus comme des gens qui sont proches de chez toi. Puis je suis comme, OK. Ouais, je n'ai pas là mon ami. Mais puis je suis comme, OK, fait on est genre les troopers super fans. Genre, on connaît l'app, on l'a tout pas fait. Comme c'est sûr, ça ne marchera pas. Là. Fait que là, j'étais comme, on le fait pas. Fait que ça, je trouve qu'il y a des façons de valider. Tu sais, là, à un moment donné, t'es comme, OK, on part sur du pricing. Je suis comme, OK, attends. On va appeler 10 users, là. On va leur parler, on va leur demander. Puis c'est comme, on fait des assurances, c'est sûr. Ça... Puis je suis comme, on a appelé du monde. Puis c'est-tu vraiment ça qui fait? Puis c'est fou, être sur le terrain, parler vraiment à vos clients, à vos membres. Nous autres, c'est des membres. C'est souvent, la réponse est comme dans ta face. Mais tu sais, souvent, on est dans les datas, on est ici, on se parle à nous-mêmes, là, genre 100%. Là. Fait que mettez votre produit dans les mains. Regardez, souvent, ils ne comprennent pas en tout. Là. Puis tu sais, t'es comme, ah oh, ouais, c'est... Non, ils pensaient que c'était de la pub. Pour ça que personne cliquait sur la feature, ils pensaient que c'était une pub. Le monde ne lise pas. Puis j'ai dit, oh my God. Fait, non, mais tu dois l'avoir vécu, Jonathan. Là, tu sais, c'est comme ben, le monde.
Absolument. Tu sais, combien de fois qu'on a développé une interface, puis finalement, tu le mets devant le client, tu fais, hé, il ne comprend pas ce qu'on, nous, on pensait que c'était simple à comprendre. Puis là, tu te rends compte que on n'a pas la même manière de penser d'une humain à l'autre. Puis là, tu as investi du temps, de l'argent, de la programmation, du design. Puis, oh mon Dieu, OK, ça fonctionne pas. Puis, le gros problème, c'est qu'on pense tout le temps qu'on est à une fonctionnalité de frapper un coup de circuit. Fait que c'est tellement...
T'es comme, ah, ça va lancher, puis là, t'es comme... Ah, ça va être ça. Ça va être malade. Puis là, c'est comme, il se passe absolument rien. T'es comme...
Puis là, t'es déjà sur, ah non, finalement, ça va être telle autre fonctionnalité. Fait que c'est, je trouve ça brillant qu'il t'apporte cet aspect-là d'être vraiment en train de parler avec le client puis tester avant de développer. C'est probablement la raison pourquoi tu es rendu là aujourd'hui en si peu de temps, c'est de ne pas t'être égaré dans autant de chemins potentiels ou que la prochaine fonctionnalité est la réponse au coup de circuit qu'on tombe trop souvent dans un développement d'un produit techno puis une startup. C'est pas le fait de la développer puis après ça de tester qui va faire le succès, c'est de le prouver avant de la développer que ça va être un succès. C'est pas toujours évident à faire, c'est challengeant, mais tu as l'air d'avoir vraiment ce réflexe-là que... c'est rare qu'on entend là, que ce réflexe-là est développé, puis tout à ton honneur, puis je pense que ça l'explique un peu pourquoi tu es déjà rendu là en si peu de temps. Fait que bravo, puis c'est un bon partage, je pense, à tous et à chacun, et à se rappeler, parce que c'est facile de retomber dans la fonctionnalité en titre, là, comme une maladie, là, qu'on pense que la prochaine fonctionnalité est la vérité. Mais voilà, je te comprends sur cet aspect-là. Est-ce qu'il y a d'autres bons coups que tu aimerais partager avec la communauté?
Des bons coups. Ben, une chose que moi j'ai appris récemment, c'est l'intuition. Tu sais, je n'ai parlé aussi vite tantôt. Puis, tu sais, l'intuition, c'est l'intelligence qui vient du cœur puis du ventre, qui c'est quand tu as des frissons, quand tu ne sais pas pourquoi tu es tout excité pour quelque chose, tu rencontres quelqu'un puis tu sais que ça va bien aller, ou tu te rends compte que c'est pas la bonne affaire. Tu sais, t'es comme, ça va pas dans le bon chemin, je le sens, il y a quoi qui manque, tout ça. Puis, moi, j'ai fait faire une formation à mon équipe là-dessus, parce que souvent, on l'applique d'un point de vue perso, mais pas d'un point de vue pro. Je trouve que on est analphabète dans notre société, puis c'est fou, parce que dans notre langage, on l'a, tu sais, on dit, écoute ta petite voix intérieure, ton gut feeling, qu'est-ce que tu sens dans tes tripes, tu sais, on le dit, Mais on ne le comprend pas parce que je pense qu'on l'a perdu à travers les dernières années, tu sais, les dernières 100 ans. Là, tu sais, les communautés autochtones, ils l'ont beaucoup. Fait que c'est souvent ce qui t'amène à prendre des bonnes décisions parce que c'est une mémoire qui vient avec tes émotions, que tu te souviens de ce que tu as vécu dans le passé. Puis moi, je trouve qu'il faut se fier plus à ça, à notre intuition, qui n'est pas un Excel, qui n'est pas une série de codes de chiffres, un algorithme. C'est vraiment qu'est-ce qu'on a de plus humain, puis c'est un super pouvoir. Puis je trouve que, moi, des fois, je suis comme, on n'a pas craqué de quoi qui va faire que là, va mieux marcher. Je ne sais pas c'est quoi. Il nous manque de quoi. On ne l'a pas. On va le trouver, mais on ne l'a pas encore. Tu sais, puis je suis comme, je ne sais pas. Je le dis, tu sais, ça peut avoir l'air space, là, mais c'est pas space. Puis des fois, genre, je rencontre un investisseur, puis je suis comme, je le file pas, lui. Puis je suis comme, je sais pas pourquoi, mais genre, je le file pas. Ou même des fois, avant des rencontres, genre, je sais que ça va pas marcher. Puis genre, je suis super résiliente par rapport à ça, mais ça a l'air peut-être un peu plus. Je parle à du monde aussi, tu sais, qui sont en tech, des fois, ils ont tendance à être comme très dans l'énergie masculine et très dans l'énergie de la tête. Mais j'invite les gens qui nous écoutent à s'intéresser vraiment l'intuition, mais tu sais, de manière... Il y a des instituts HeartMath qui étudient ça, puis c'est vraiment puissant.
Ouais. As-tu des livres à partager par rapport à ça, ou tu parles justement de l'institut? Est-ce qu'il y a des formations en ligne que tu as suivies? Je suis curieux d'en entendre un petit peu plus là-dessus.
Oui, Joannie Lacroix, qui a fait Pastel Fluo, c'est une formation que j'ai suivie en ligne qui est extraordinaire, le leadership intuitif. Je vous recommande d'aller la suivre. C'est au début, j'étais comme l'intuition, on connaît ça, l'intuition. Mais comme ce qui est cool, c'est que tu l'intellectualises, puis quand tu le comprends, tu arrives à mieux le sentir. C'est un pouvoir comme qu'on sous-utilise.
Surtout quand on est technique. Qu'on est plus 0 et 1. Et on entend souvent que les grands entrepreneurs ont développé, je pense, ce sens-là qu'on étouffe un peu trop, je pense, dans des startups techno. On va mettre les notes, le lien dans les notes de l'épisode pour ceux que ça les interpelle. Et moi, ça m'interpelle. Je vais aller chercher un peu plus d'informations là-dessus, définitivement. Merci du partage. Je vois le temps qui file à grande vitesse. Honnêtement, je pense qu'on pourrait étirer cette conversation-là pendant 2-3 heures parce qu'il y a beaucoup à dire, même si ça fait pas 14 ans que tu as la start-up. Je veux voir avec toi, Fauve, avant de te laisser une petite place plus du côté publicitaire, je veux voir avec toi, est-ce que tu avais un dernier sujet que tu voulais qu'on parle ou un dernier petit quelque chose que tu voulais apporter sur le podcast?
Je pense que c'est pour ceux qui développent dans le fond un produit technologique, un conseil que je dirais, c'est de s'entourer. C'est de rapidement laisser son ego de côté, puis de se dire comme, tu sais, la force souvent, c'est d'entreprendre. Fait qu'entreprendre, c'est trouver les bonnes personnes, les bonnes ressources pour faire arriver les choses, puis tout de suite comprendre où sont nos gaps. C'est comme, moi, je n'étais pas quelqu'un technique, j'étais allée chercher des gens techniques avec qui travailler, j'étais chercher des aviseurs, faire conseiller par des agences, j'ai engagé des gens. Je connaissais, tu sais, la finance, c'était pas plus mon dada. Ben, quelqu'un qui revoit mes états financiers, j'étais allée chercher, je connais rien à la politique gouvernementale. On a maintenant l'ancienne ministre de l'Environnement qui se sont joints à nous, puis elle m'explique c'est quoi elle appelle ça comme une toile d'araignée, les relations gouvernementales. Puis j'apprends d'elle, mais genre, je sais pas comment parler à un politicien, puis je sais pas comment remplir des demandes de subventions. Je découvre que c'est un art. Fait que je pense que plus vite on s'entoure des gens qui ont l'expertise que nous, on n'a pas, ça fait gagner du temps en titi. Fait que c'est plus grand que vous, votre projet. Puis souvent, les gens, ils sont super généreux de leur temps. Puis de pas se décourager. Hein? Ouais.
J'aime comment tu l'apportes. Je voulais pas te couper. Continue, Fauve.
Ben non, mais c'est ça, là, c'est de ne pas se décourager si on en a parlé, là, c'est tout le temps, je pense que c'est ça, tu sais, c'est, genre, quand c'est tough, là, justement, faut que tu continues, puis la monnaie, il y a du positif, mais c'est la résilience, ils le disent tout le temps, là, on est plate, on dit tout le temps la même affaire, mais...
Je trouve intéressant comment tu l'apportes. Souvent, je le dis que pour être la force d'un entrepreneur, c'est d'avoir trois choses ou de mettre trois items de l'avant, c'est d'être naïf. Premièrement. Deuxièmement, c'est d'être positif à chaque jour, donc de voir le verre plus à moitié plein qu'à moitié vide versus la moyenne de la population. Et le troisième point, c'est de rapidement devenir la personne la plus imbécile dans la pièce ou la moins connaissante. Donc, de s'entourer rapidement de gens qui vont nous faire paraître, pas paraître inférieurs, mais qu'on sait qu'ils sont au-dessus de nous et qui nous tirent vers le haut. Fait que naïveté, positivisme, puis savoir reconnaître ou s'entourer de gens qui vont être plus hauts que nous autres pour nous amener vers le haut et non nous les tirer continuellement vers le haut. Je pense que tu as déjà ciblé tous ces trois morceaux-là, puis c'est ce qui fait, je me répète, là, que tu avances rapidement, puis c'est impressionnant de te voir évoluer.
Merci, t'es tellement fin. Ça me fait du bien. C'est que non, mais tu sais, Jonathan, pour de vrai, tu sais, juste que tu me dises ça, je sais pas toi, mais tu sais, quand quelqu'un dit « Hey, wow, c'est tellement hot ce que t'as bâti », on dirait, à chaque fois, là, c'est tellement, tellement de travail, mais quand moi, à chaque fois que quelqu'un me le dit, là, c'est comme un gros câlin là, qui me fait tellement du bien. Fait que tu sais, merci, Jonathan, j'apprécie vraiment, ça fait du bien.
Écoute, ça vient du fond du cœur, puis honnêtement, j'ai parler avec beaucoup de gens qui ont développé des startups, puis là, je m'excuse de te relancer encore des fleurs, mais c'est impressionnant. Si peu de temps, avec peu de background tech, bravo, de lever des rondes de financement, de t'entourer de bon monde, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour réussir à amener le train à destination devant toi. Fait que lâche pas, continue honnêtement, on va continuer de te suivre. Je termine en te laissant un petit peu une fenêtre d'opportunité pour voir comment la communauté peut t'aider. Est-ce que tu es à la recherche assurément de clients supplémentaires dans la plateforme, d'usagers supplémentaires, mais est-ce qu'il y a des endroits que tu essaies de rentrer pour vendre des forfaits plus corporatifs ou de ville que tu aurais besoin d'un contact, un employé clé que tu vas aller chercher? Donc, c'est un peu la fenêtre d'opportunité qu'on veut te laisser.
Bien, merci. C'est sûr, tout le monde qui nous écoute, ça me fait vraiment plaisir que vous téléchargez l'application Partage Club. Vous avez un 3 mois d'essai gratuit, donc ça ne vous engage à rien. On ne vous demande pas votre carte de crédit au début. Pour nous, on est vraiment dans la confiance, donc c'est vraiment très, très libre. Si vous avez vous êtes dans une ville, vous connaissez les élus, les conseillers, on a une lettre au maire, vous pouvez nous contacter, puis vous pouvez les contacter, ça aide beaucoup quand ça vient des citoyens. Si vous êtes locataire aussi dans un endroit, on a une offre pour les promoteurs immobiliers. Si vous êtes aussi à la tête d'une entreprise ou un employé dans une entreprise, puis vous voulez que les gens se partagent, c'est un bénéfice employé, il y a aussi cette possibilité-là, ou encore via des universités, des écoles secondaires, des cégeps. En fait, il y a plein de possibilités de nous tendre la main ou de nous faire une référence ou nous contacter. Ça nous aide beaucoup parce qu'on est encore en développement. Puis, mais on est convaincu qu'on fait la bonne chose pour la société. Puis les gens se transforment. Fait que si vous commencez à partager, les gens ne partagent pas, là, c'est moins de 10% au Canada. On achète beaucoup. Fait que les gens qui disent « Ah, je le fais déjà », on le fait pas en tant que société. Puis 40% des Canadiens connaissent entre 0 et 2 de leurs voisins. On se connaît plus, on n'a plus de lien social. Donc, ce qui est trippant avec le Partage Club, c'est que moi, je connais tous les gens sur ma rue. Fait qu'on crée du lien puis de la communauté. Donc, c'est vraiment beau. Fait qu'on vous invite à venir faire partie du club.
C'est un beau mouvement. Bravo. On va mettre les liens pour réussir à aller chercher l'application et pour le site web dans les notes de l'épisode. Donc, n'hésitez pas à aller visiter ça. Fauve, merci beaucoup pour ton temps. On sait que le temps est précieux dans une startup. On est demandé à gauche et à droite. Fait qu'on est privilégié que tu sois avec nous aujourd'hui. Si ça t'intéresse éventuellement de nous faire un update en cours de route, n'hésite pas à nous faire signe et à revenir. On va te laisser retourner à tes priorités de faire avancer les choses. Et voilà, merci à tous de nous écouter. Je vous rappelle, on produit ce contenu-là avec beaucoup d'amour et gratuité pour vous. On vous demande juste une seule petite chose, d'aller sur votre plateforme de balado préférée. Mettre un 5 étoiles, s'il vous plaît, ou le partager à quelqu'un que vous pensez que ça peut impacter soit son entreprise ou sa vie, parce qu'on a des beaux partages et des beaux conseils. Donc, merci, 5 étoiles, un petit partage, prenez 17 secondes de votre temps, ça va nous aider beaucoup. Merci d'être à l'écoute à chaque semaine et je vous dis à bientôt.